Bienvenue au Polysécur épisode spécial Incyber. Je sais que Yuna, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, bonjour. Donc Yuna Chasbentabed, je suis ingénieure sécurité réseau et spécialisée en social engineering. Donc j'accompagne les entreprises à travers des masterclass, des audits et j'ai aussi du coup tout un volet formation en social engineering parce qu'on est malheureusement encore assez pauvre du coup sur ce sujet en France.
Pas juste en France.
Pas juste en France.
Je pense que c'est un sujet qui est relativement universel. Tu es venu présenter Incyber Montréal. Quel est le sujet que tu es venu présenter?
J'ai eu la chance de faire deux conférences du coup là au FIC. Une hier où vraiment on a parlé social engineering, comment ça fonctionne, quelles sont les techniques qu'on utilise, quels sont aussi les biais, est-ce que cognitivement, pourquoi est-ce qu'on tombe dans les pièges? On est allé un peu plus loin aussi en parlant du coup de ces leviers qu'on utilise, les mêmes en cas, mais à l'échelle de manipulation beaucoup plus globale, de désinformation et de manipulation des élections et des démocraties. Quoi. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai la chance du coup d'intervenir juste après le ministre de la cybersécurité sur la scène transport, du coup, donc pour l'ICAO, c'est l'aviation civile des Nations Unies. Et voilà, on a parlé aussi social engineering et failles humaines, mais au sein de l'aviation et des transports.
Très intéressant, très pertinent, puis surtout dans une application, dans des champs d'expertise spécifiques. Je vais commencer avec quelque chose qui n'a aucun lien avec ça. Qu'est-ce qui a passé d'ingénieur réseau à social engineering, parce que c'est quand même pas un passage qui est, disons, naturel. Qu'est-ce qui a amené d'un à l'autre?
C'est vrai. Alors, c'est vrai que la partie réseau, là, c'est très technique et très... ça manque un peu d'humain, au final. Je pense qu'il y avait quand même un manque chez moi de rapport humain. Non, mais plus sérieusement, en fait, je crée pas mal de contenu sur LinkedIn, ce qui m'a amené beaucoup de visibilité. Et en fait, j'ai commencé à créer du contenu sur le hacking. Parce que je me suis dit, mais en fait, je pense que ça doit intéresser plein de gens, parce que c'est assez fascinant comme domaine. Donc j'ai démystifié un petit peu ces concepts-là. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis dit, mais en fait, bon, le hacking technique et physique, c'est bien. Mais en fait, le hacking humain, c'est la clé de voûte de tout ça, quoi. Et en fait, du coup, je suis allée me former aux États-Unis avec Christopher Adnaji, qui est quand même le pape du social engineering mondial. Et voilà, et le but, c'est de ramener ça en France et en Europe, parce que je trouve qu'aux États-Unis, ils ont quand même un peu plus d'avance que nous. Je pense qu'un peu comme le pentest en France, il y a 15 ans, c'était assez rare. Maintenant, c'est devenu normal. Je sais qu'aux États-Unis, du coup, le social engineering est mené des audits et c'est assez courant, en fait. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment du travail à faire sur le facteur humain en France et en Europe et probablement au Canada, du coup.
Oui, on est un peu dans le même univers. Il y a vraiment juste l'environnement américain où il y a eu des spécialistes qui ont fait grandir ça, et notamment par les éléments du DEFCON où il y avait les exercices qui étaient dans ce sens-là, qui mettaient en valeur justement cette façon-là d'utiliser l'humain pour aller plus loin et seulement briser le système. Puis d'ailleurs, dans une autre conférence, j'avais sorti une statistique, c'est d'un cas de 72% des incidents de sécurité à l'heure actuelle, c'est un humain qui est impliqué à l'intérieur.
Exactement.
De ceci, une question de méconnaissance et ainsi de suite. Peux-tu justement commencer à discuter qu'est-ce que le social engineering représente, qu'est-ce que c'est, pour un peu démystifier ça, puis ensuite on va continuer sur, sur le sujet.
Alors qu'est-ce que c'est le social engineering? C'est l'art, hein, parce que c'est un art, hein, l'art de manipuler les autres pour obtenir des informations, ou avoir quand on a une cible, quoi. Ça peut être, ça prend plusieurs formes, le social engineering. C'est à la fois, ça peut être de l'intrusion physique, mais en fait, c'est aussi ce qu'on vit d'ailleurs au quotidien, en fait. C'est du phishing, du smishing, du vishing, donc voilà, le mail, voix, SMS. Et en fait, on est tous sujets à ça. En conférence, j'aime bien demander qui pense avoir déjà subi une attaque de social engineering. Il y a peu de mains qui se lèvent parce que en fait, les gens, je pense, n'ont pas conscience en fait, de la régularité des attaques qui sont permanentes. Hein. On voit bien nos téléphones, c'est constant. Quoi. Et donc, voilà ce que j'ai répondu.
Oui, ça va bien. Et de cet élément-là, tu en as fait une profession. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu enseignes? Qu'est-ce que tu fais? Et comment tu aides justement les entreprises, les sociétés à avancer, à se former? Parce qu'on en reçoit tous, comme tu l'as très bien mentionné. Ça prend de toutes les formes, du courriel à des appels, à avec des urgences, des éléments comme ça. Donc, comment tu réussis à amener cette compréhension-là dans les employés de...
Mais il y a plusieurs solutions. Enfin, ça dépend aussi des moyens. Malheureusement, les entreprises, par exemple, les TPE, PME, collectivités territoriales, c'est quand même moins d'argent à investir. Donc là, on va plus être sur des masterclass entre une journée à deux journées où on va voir en théorie en fait comment ça fonctionne, un peu comme je le fais en conférence, c'est déjà ça. Mais on va aussi mettre en place des exercices et voilà pour que les gens deviennent acteurs et de la sécurité et de comprendre comment ça fonctionne, quoi, pour les faire un peu penser comme des hackers. Et donc ça, c'est un premier volet. Et le deuxième volet, donc, c'est de l'audit, vraiment. Donc, on va faire soit de l'intrusion physique, on va faire une cartographie, auditer l'entreprise, voir où sont les vulnérabilités, les failles humaines. Et une des seules solutions, en fait, en social engineering pour augmenter la vigilance, c'est d'attaquer régulièrement. Donc, en fait, c'est des contrats très long terme sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Ou voilà, en fait, on met en place des campagnes de phishing, de vishing, de smishing, en fonction des besoins, évidemment, de l'entreprise, avec différents niveaux de difficultés. Mais sans jamais... c'est vraiment une culture du no blame, quoi, en fait. Parce que, évidemment, tout le monde tombe dans les pièges et c'est normal. Et il n'y a pas, du coup, à aller culpabiliser qui que ce soit, en fait.
Oui, absolument. J'aime bien ça que tu le spécifies. Parce que j'ai vu des entreprises qui vont justement aller punir les employés d'une façon ou d'une autre pour ça. Puis, à mon sens, ça fait pas sens parce que ça aide pas les gens à s'améliorer. Ils ont juste peur et ça, donc ça a l'effet, somme toute, pour le contraire. Comment tu réussis à amener ça dans la compréhension du no blame dans le contexte? Parce que c'est pas naturel chez les gens de pas vouloir blâmer. Puis, comment on réussit à passer cette idée-là pour que ça soit accepté?
Ouais, c'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif au début, mais en fait, juste en communiquant, je pense qu'il faut poser les bases et expliquer. Mais après, ça devient un peu concret, c'est-à-dire qu'une personne qui a cliqué une fois, qui s'est piégée une fois, elle a quand même moins de chances de recliquer et de refaire une bêtise, quoi. Donc finalement et après, voilà, c'est un peu gamifier le truc, quoi. Et que tout le monde, en fait, se prenne un peu au jeu, voilà, de faire remonter les emails et que ça soit plus, comment dire en français, mais plus rewarding, quoi, que voilà.
Bon, ça, d'aider les gens et justement l'accompagnement des gens qui se sont fait prendre, parce qu'on se fait tous prendre, comment il est fait pour désamorcer justement la culpabilité que l'employé peut avoir face à ça?
Il faut que le top management prenne conscience que c'est OK, quoi. Et mais ça passe par comment est-ce que, du coup, les contrats, on les fait au début. Là, il n'y a pas... moi, je ne veux accuser personne et le but n'est vraiment de faire virer personne, bien au contraire, quoi. Donc, c'est vraiment en amont qu'on met ça en place, c'est vraiment une communication avec les dirigeants et lors des contrats, quoi.
Ouais, de toute façon, on se finit tous par se faire avoir. Moi, le premier, donc, puis j'utilise énormément le fait que même comme un professionnel dans le domaine, je me suis fait avoir comme les autres, que je suis un humain comme les autres, puis justement, de ramener cet aspect de dédramatiser, puis de dire non, mais on tombe tous, c'est juste être un peu plus fatigué ou être moins... moins vigilant. Côté plus humain, est-ce qu'il y a des interventions sur des attaques plus téléphoniques en présence ou d'éléments comme ça dans lesquels que tu exécutes puis justement qui aident les entreprises à aller plus loin?
Redis-moi ta question.
En présentiel.
Ouais.
Des éléments où tu fais, c'est pas par des courriels, mais c'est par soit des appels téléphoniques,
ouais,
soit par des interventions sur place,
ouais,
ou
ouais,
que
bien
tu
sûr,
faufiles,
ouais,
dans
tout
le système.
Tout ça rentre en... Tout dépend de ce qu'on décide, du coup, et des besoins. Mais oui, ça va, c'est pas seulement du phishing, du coup. Je pense que ce qui est le plus excitant en tant que social engineer, c'est l'intrusion physique, sans aucun doute. C'est du coup... c'est faire de la reconnaissance, c'est aller créer sa légende, le prétexting, comment est-ce que du coup on va réussir à rentrer au sein de l'entreprise, quel est le but de la mission aussi, est-ce que du coup c'est aller plugger une clé USB dans un PC avec une charge, ou est-ce que c'est d'aller trouver des dossiers, est-ce que voilà. Et c'est vrai que il y en a quand même pas beaucoup beaucoup des intrusions physiques pour l'instant, mais par contre c'est très excitant à faire en tant que social engineer. Et voilà. Voilà.
Comment ensuite, comment l'élément de communication est fait une fois que, là j'en reviens plus sur les courriels notamment, une fois qu'ils ont été attrapés, et comment on les amène à comprendre puis on allait plus loin dans leur compréhension? Parce que souvent, ce que j'ai vu, c'est que l'éveil est ou très court, puis ça s'estompe rapidement dans les semaines qui suivent le fait de se faire apprendre. Pour donner une certaine forme de continuité, as-tu des clés spéciales ou c'est peine perdue?
Ouais. Déjà parce qu'il faut que ce soit récurrent. En fait, c'est pas envoyer un mail de phishing une fois tous les 3 mois, 4 mois, et puis des mails phishing où tu te dis bon bah sérieusement quoi. Après, ce qui est bien, moi je trouve, c'est d'avoir un lien avec le user quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si tu cliques, tu reçois un petit message ou un appel en te disant bon bah en fait voilà ce qui vient de se passer en fait. Et comme ça, c'est directement intégré dans le cerveau en mode ah mince quoi. Et c'est pas juste j'ai pas report et en fait ça reste très impalpable finalement pour l'être humain. Et donc là vraiment d'avoir un rapport aussi avec l'usager et une vraie compréhension de ce qui vient de se passer et pourquoi ça s'est passé quoi.
Oui, puis là on va basculer sur les biais parce que c'est les biais cognitifs parce que c'est vraiment là où le jeu se fait. C'est là où probablement quand t'es allé te faire former aux États-Unis dans lequel t'as joué énormément. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui est utilisé et comment on peut aller plus loin? Là, il y a plusieurs questions là-dedans, mais on va commencer par quels sont les biais généraux qui sont utilisés par les attaquants?
Ouais. Alors des biais cognitifs, il faut savoir qu'il y en a en fait des centaines. Hein. Et donc évidemment, on ne va pas tous les citer là. Un des biais qui marche très, très, très bien, c'est le biais d'urgence. Voilà, alors l'urgence, mais on a tous déjà vécu ça. Hein. C'est le mail, le SMS avec en rouge, réponse immédiate. Et donc, en fait, ce qui va se passer avec le biais d'urgence, c'est aussi autre chose. C'est ce qu'on appelle en social engineering l'amygdala hijacking. Donc, l'amygdale, c'est une petite zone du cerveau qui, du coup, en fait, nous sert depuis des millions d'années à notre survie. Quoi. Donc, c'est un peu le stay or leave, quoi. Donc la fuite, quoi. Le problème en fait de cette amygdale, c'est que en fait elle nous fait perdre 60% de notre raisonnement. Il n'y a plus de raisonnement en fait, donc on va agir dans l'instinct. Et donc avec les biais d'urgence, c'est exactement ce qui va se passer en fait. Notre raison qui va chuter et on va cliquer parce qu'il y a de la peur, il y a de l'urgence. Donc celui-là est quand même très 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 efficace. Hein. La bonne nouvelle avec l'amygdala hijacking et le biais d'urgence, c'est qu'en fait, dans la vie, il faut se rendre compte qu'il n'y a jamais quoi que ce soit qui demande qu'on réagisse dans les 30 secondes. En fait, rien, jamais, jamais. Et donc, tout ce qu'il suffit de faire, c'est à partir du moment où on reçoit ce genre de mail, d'appel, peu importe, c'est de se dire, je prends 20 secondes, 30 secondes à peine, hein, c'est franchement rien, juste pour respirer et pour me poser la question. Et là, ça reboot quand même l'amygdale et on reprend un questionnement raisonnable, quoi. Donc voilà, ça c'est déjà un bon, c'est bon à savoir, c'est quand même c'est pas compliqué et c'est quand même très efficace, quoi.
Oui, absolument. C'est ce que je conseille justement de prendre juste une respiration. On va nous aider à et ensuite de prendre le temps suffisant. Puis dans l'urgence étant ouais. le principal utilisé. Il doit y en avoir d'autres qui sont aussi très, très fréquents.
Il y en a d'autres, ouais. Il y a évidemment le biais d'autorité. Tout ce qui est, je pense qu'il porte bien son nom, hein, mais si on reçoit un mail d'un notre supérieur ou après, il y a d'autres, l'autorité, c'est les médecins, c'est les avocats, c'est la police, etc., etc. Difficile de remettre en question l'autorité, très difficile. Il y a le biais de réciprocité. Les êtres humains adorent rendre service et donc on adore mutuellement se rendre service. On va avoir le biais de conformité. Alors c'est il y a deux choses là-dedans. C'est en fait à la fois tout le monde. Si tout le monde le fait, je le fais aussi. Et puis quand on va faire du prétexting comme ça, quand on arrive en physique, il faut en fait que on soit conforme à l'image qu'on veut renvoyer. Par exemple, moi j'ai pas trop la tête de l'emploi de quelqu'un qui répare des ascenseurs. Voilà. Non mais du coup en fait faut être cohérent avec un peu la légende qu'on crée. Mais en fait, il faut être conforme. Moi, j'aimerais bien avoir que ça soit OK. Mais voilà, il faut être conforme. Et à partir du moment où c'est raccord, hein, le cerveau adore en fait dire OK, c'est bon. Il n'aime pas remettre en question en fait ce qu'il voit. Déjà, ceux-là sont déjà très utilisés en tout cas en social engineering.
Et étant utilisé, comme le premier t'a mentionné, quelles sont les défenses qu'on peut avoir pour nous aider à prendre le pas de recul pour pas tomber dans le piège et justement de nous outiller tranquillement à être moins fragile?
Je pense qu'il faut, en fait, déjà en premier lieu, il faut en avoir conscience. Et je pense que c'est pour ça que se former, que ce soit en théorie et en pratique, parce qu'encore une fois, il n'y a rien de mieux, parce que la théorie, en social engineering, beaucoup de formations vont être vraiment sur le, bah, rationnellement, voilà, comment ça marche, etc. Mais en fait, c'est pas en expliquant seulement rationnellement que du coup, ça va changer quoi que ce soit. Parce qu'encore une fois, c'est des réactions émotionnelles. Et en fait, 90% de notre temps, on est dans l'automatisme dans ce qu'on fait. Donc, d'où les exercices, d'où du concret, en fait. Et je pense qu'une fois qu'on commence un peu à jouer à ça, on se rend compte et on observe différemment aussi les choses et soi-même. Après, le social engineering et la manipulation, bon, la manipulation, c'est pas un très joli mot, mais en fait, ça fait partie de notre quotidien. C'est permanent et on l'utilise à bon escient, en fait, entre êtres humains. C'est juste que, voilà, il faut apprendre à le reconnaître, à être formé, et à jouer un petit peu et voir ça presque comme un jeu, quoi.
Oui, tu as plusieurs missions dans ce domaine-là. À quoi ressemble une mission type et comment tu la prépares, cette mission-là, justement pour arriver avec un résultat intéressant, autant au niveau de piéger les personnes, malheureusement, et ensuite l'effet éducatif qu'en est tiré sur une mission type que tu vas faire.
Sur les missions d'intrusion de long terme? Ouais. Du coup, on va mettre en place déjà le périmètre en fait d'action. Quelles sont les limites aussi? Quelles sont les protections? Parce que on est quand même juridiquement sur des. C'est pas si simple quoi. Surtout ce qui va être intrusion physique, il faut absolument prévoir des lettres de sortie de prison si jamais on se fait arrêter. Et donc voilà, vraiment c'est il faut des contrats quand même très 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 solides hein, pour voilà vraiment acter tout le périmètre en fait d'attaque quoi. Et qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok, avec qui est au courant, qui n'est pas au courant, voilà, est-ce qu'on c'est un peu le gray box, voilà. Donc c'est très 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 changeant et très différent en fonction des entreprises.
Mais une fois que l'élément contractuel est établi, puis donc le périmètre est bien fait, comment tu vas établir ta mission? Comment tu vas définir tes scénarios? Comment tu vas cibler? Est-ce qu'il y a des questions types? Est-ce qu'il y a des façons types que tu peux t'apporter de la situation puis qui peut arriver justement à quelque chose qui fonctionne? Parce que dans certaines entreprises, certaines sociétés, il y a des questions qui sont invalides parce qu'ils n'ont pas sens. Tu mentionnais, tu ne répares pas des ascenseurs puis effectivement, tu vas à la tête de l'emploi. Mais en même temps, il y a d'autres éléments qui sont plus probants selon les secteurs. Et comment tu vas chercher cette information-là pour avoir un bénéfice multiplié pour l'entreprise qui va faire affaire à tes services, par exemple?
Ouais, ben ça, c'est toute la phase de reconnaissance hein, qu'on a du coup en social engineering. On passe par plusieurs phases, un peu comme en hacking, avec un peu mitre-attaque, quoi, mais en SE. Ça, c'est la phase de reconnaissance et qui est d'ailleurs après sur la durée aussi. Où on va faire de l'osint en fait. On va utiliser du coup toutes les ressources qui sont à notre disposition publiquement pour dresser en fait un portrait de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a? Par exemple les événements. Ok, quels sont les événements à venir? Ça c'est que si on va faire du phishing, vishing, c'est voilà. On va voir qui sont les partenaires aussi annexes. On peut se faire passer pour de l'IT support par exemple par la voix. Les mails de phishing, ça va être pour un événement à venir avec des places à gagner, etc. Voilà, en gros.
Super intéressant. J'ai fait un bon tour d'horizon du sujet en question. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que tu aimerais discuter?
Moi, il y a un sujet que j'aime bien en SE, c'est l'ocytocine, en fait. Moi, j'aime bien réfléchir aussi vraiment en termes de la psychologie cognitive et qu'est-ce qui se passe. Et donc, l'ocytocine, en fait, on la connaît pas mal, cette hormone, elle est assez connue, mais en fait, c'est l'hormone de l'amour. En général, on l'appelle comme ça. En fait, bon, souvent, on la connaît parce que du coup, c'est quand on a ce côté où donc, les mamans, quand elles accouchent de leur enfant, on sait qu'il y a un énorme pic d'ocytocine qui est créé avec l'attachement avec l'enfant, quoi. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. L'ocytocine, c'est vraiment l'hormone de la confiance, en fait, entre les êtres humains. Donc, on en sécrète tout le temps dans tous nos rapports. Et c'est d'ailleurs, en fait, quelque chose d'assez extraordinaire, ce qui nous permet d'être humains et de travailler comme on le fait. On a cette capacité, quand même, les humains assez extraordinaires, de pouvoir travailler à travers le monde entier sans s'être jamais vu et juste parce qu'on se fait confiance et qu'on travaille ensemble. Donc, c'est, encore une fois, c'est une force. Hein. Toutes les choses dont on a pu parler, j'en parle en termes de manipulation, plutôt négativement, mais en fait, ce sont aussi les forces de l'humanité. Quoi. C'est juste que ça dépend du contexte et comment est-ce qu'elles sont utilisées contre nous. Et donc, l'ocytocine, ce qui est voilà, assez fascinant chez l'être humain, c'est pas tant le fait de mutuellement se faire confiance, mais si c'est quelqu'un te dit « je te fais confiance », là, ça va créer un énorme pic d'ocytocine Et ça va du coup créer un rapport de, ouais, donc, en effet, de confiance, et on va avoir envie de rendre service, etc. quoi. Mais voilà, je trouve ça assez passionnant de voir que finalement, c'est quand l'autre nous fait confiance que voilà, on a ça qui se produit dans notre cerveau. C'est assez beau. Malheureusement, en social engineering, c'est très efficace aussi.
Oui, et c'est très efficace. Et justement, pour rebondir un peu là-dessus, comment tu réussis à équilibrer pour ne pas détruire la beauté de l'oxytocine, notamment, mm-hmm. mais de faire que les gens ont une saine prudence par rapport à ça?
Oui, c'est une excellente question. Moi, dans mon travail, du coup, mon boulot, c'est de défendre et c'est éthique. Donc, en fait, et c'est Christopher Energy qui m'a formé de cette façon-là, mais en fait, notre travail, nous, quand on intervient, on doit laisser les gens que l'on croise mieux qu'avant nous avoir vus. Donc, en fait, j'utilise jamais de chantage, de blackmailing, de peur, etc., etc. C'est pas éthique et le but n'est pas de manipuler, de faire du mal aux gens. Mais ça, c'est parce qu'on est dans. On est là pour auditer et pour protéger l'entreprise, en fait. Mais évidemment, des attaquants, des vrais attaquants, n'auront aucun problème, du coup, à utiliser toutes ces autres techniques de coercition, etc. quoi. Mais à vrai dire, en fait, on se rend compte que ne pas utiliser ces techniques de peur, enfin, tout ce qui est plutôt dans le. On va dire les méchants, en fait, ça marche très, très bien aussi. La coopération et et la confiance sont quand même des leviers qui sont les premiers en fait à être utilisés et qui fonctionnent à merveille quoi. Parce que les humains ont profondément, on est tous, hein, moi aussi, mais on a absolument besoin de se sentir écouté, de se sentir validé et d'utiliser ça déjà, l'écoute active et ça fait déjà des miracles. Hein. Les gens voilà sont assez bavards aussi.
Ça aide beaucoup à justement faire parler les gens puis on. Tu t'es ouvert une brèche intéressante sur justement le fait de faire parler. La beauté d'utiliser l'axe positif, c'est que ça va faire parler les gens et les gens vont avoir tendance à parler trop de choses qu'ils ne devraient pas pour différentes raisons. Comment ça s'exploite sans tomber du côté obscur? Parce que, là, tu le mentionnes bien, parce que puis pour l'avoir vécu dans certaines... À l'usage de l'urgence, ben, celui qui le subit est un peu brisé à la fin de l'expérience. Puis c'est pas l'objectif dans ce que c'est. Comment tu réussis à aller soutirer l'information sans que la personne vienne à se sentir brisée ou piégée après ça? Parce qu'il y a un peu ça aussi. Là.
Ouais, c'est pas facile. Je pense que vraiment, en effet, c'est un fil, quoi. C'est un fil et tout n'est pas maîtrisable, malheureusement. Après, il y a aussi le but de la manœuvre. Hein, et le but, c'est justement de protéger l'entreprise. Et s'il faut faire cliquer les gens et d'être dans l'urgence, malheureusement, ça fait aussi partie de cette éthique de aussi pour la protection de l'entreprise. Et pourquoi est-ce qu'on le fait, quoi? C'est pour des bonnes raisons, en tout cas. Et est-ce que... ouais, il y a des bonnes raisons, en tout cas.
Ouais, mais c'est un peu terrible, l'espace de la confiance, parce que c'est aussi l'espace de la trahison. La confiance, parce qu'une fois qu'elle est brisée, elle joue là-dessus, puis ça vient basculer d'un côté, le trait poussé d'être un humain, de collaborer, de travailler ensemble à on brise la collaboration d'un coup sec, généralement. Ça doit faire assez mal. Ça doit être assez facile, difficile à gérer, ça, pour l'entreprise qui demande justement un test.
Mais je pense que c'est pour ça qu'il faut que ça soit vraiment intégré, en fait, dans la culture. Il ne faut pas qu'on soit juste dans l'attaque pour l'attaque et qu'il y ait tout un... Que tout le monde, en fait, se sente responsable, en fait. Et je pense que c'est avec la théorie, avec les masterclass qu'on amène ça. C'est la responsabilité de chacun dans la cybersécurité et dans la sécurité de l'entreprise, quoi. Donc, on est tous acteurs de ça. Et c'est plus un jeu humain auquel il faut voilà, se mettre et le voir un peu comme ça pour évoluer. Et en plus, c'est protéger l'entreprise, pardon, mais en fait, c'est aussi... extrêmement utile dans notre vie, nos vies personnelles et individuelles. Voilà, encore une fois, tous les mails et tous les SMS, même les attaques de phishing par IA qui sont extrêmement, extrêmement bien faits. Voilà, il faut cette vigilance, elle est essentielle. Et d'ailleurs, en fait, ça va même plus loin que ça. Hein, ça va dans comment est-ce que, l'information, maintenant, on est dans une guerre de l'information. Comment l'information est manipulée, comment on vit tous dans des bulles de filtres. Et en fait, les leviers qu'on utilise en social engineering, donc voilà, la peur, jouer sur des sur la la, la peur, la colère, etc. Enfin, ces émotions fortes. Hein. En tout cas, sur vraiment, c'est de l'amygdala hijacking. C'est exactement la même chose que dans la guerre de l'information. Et donc, dans cette infobésité, dans ces bulles de filtre, c'est exactement la même chose qu'on vit. Et finalement, créer du coup une culture de la vigilance de l'information déjà en termes de l'entreprise individuellement, c'est aussi du coup comprendre quand même beaucoup plus, beaucoup mieux le monde dans lequel on vit et être avec un peu plus de d'objectivité, du moins. Et ouais.
Oui, puis je trouve ça très intéressant parce qu'il y a deux éléments très importants qui ressortent de ce que tu dis. Le jeu et se connaître. Et c'est deux éléments très importants parce que c'est en même temps un signe que les gens ne se connaissent pas et n'ont pas tendance à tomber dans le jeu facilement et d'amener ça. Donc, c'est très, très intéressant d'avoir une approche de cette nature-là, de connaissances personnelles, sans tomber dans les clichés. Et c'est probablement, ce que je ressens dans ce que tu dis, c'est vraiment là la clé pour nous aider à détecter qu'on est en train de se faire embarquer dans quelque chose qui est malhonnête, qui est incohérent et qui ne devrait pas suivre dans le flot normal de l'interaction avec l'autre humain qui est devant nous, devant le clavier ou peu importe ouais, comment il est. Là. Moi, ça fait le tour. Est-ce que tu as d'autres choses? Puisque là, on a glissé sur quelques petits éléments connexes, mais je trouve ça très intéressant.
Non, je crois que c'est bon.
Et merci beaucoup pour
merci
ton temps.
Toi.
Merci d'avoir pris le temps de venir sur le podcast. Puis,
c'est un plaisir.
Je vais plugger ton podcast aussi tant qu'à la fin. Mais je vais te laisser en parler un peu aussi. Là.
Mon podcast, oui. Ouais. Du coup, donc mon podcast s'appelle Human Ecos. Et là, je dérive. Enfin, je parle pas seulement de cybersécurité. C'est en effet, c'est cette vision, pas en silo, mais de compréhension un peu plus globale du monde. Un peu comme j'en parlais avec la désinformation, etc. Mais donc, on parle à la fois cyber, mais on parle sciences humaines, philosophie, psychologie et comment tous ces sujets en fait ne font qu'un. Et comment est-ce qu'ils influencent du coup nos sociétés? Et nos démocraties, donc c'est aussi un peu politique, voilà.
Super intéressant, je vais le mettre dans les show notes, donc les gens pourront aller voir, plus écouter que voir ton podcast, ouais. Donc merci beaucoup.
Merci beaucoup.